بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux de vous retrouver après ce mois béni de Ramadan, après lequel chacun d'entre nous, ou d'abord après toute cette facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis durant ce mois béni, où les adorations ont été facilitées, les portes du paradis ouvertes, les portes de l'enfer fermées, les shayatines enchaînées, et le bien est facilité d'une manière générale. Après cela, le croyant doit se poser la question et avoir le souci au sujet de l'acceptation de ses bonnes œuvres. Après avoir fourni tous les efforts pour être sincère et conforme à la sunna du prophète, il espère l'acceptation de ses bonnes œuvres. Et aussi, il implore Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir le raffermissement, al-thabat, la chose que demandait le plus notre prophète, alayhi salatu wa salam. Ya muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinik. Et que demandaient les compagnons en suivant sa guidée également, comme ça a été rapporté de Anas et de d'autres compagnons, et comme demandent les savants qui sont bien ancrés dans la science. Ar-rasikhuna fil ilm. Ar-rasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont demandé à Allah? Ils ont dit: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ils ont peur de la déviance après la guidée. Et plus on connaît Allah, plus cette peur augmente. Lakin, ce n'est pas une peur troublante. Ce n'est pas une peur qui ouvre la porte au wasawis de shaitan. C'est une peur qui donne une sérénité, une force dans la foi. C'est la peur louable, aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Une des plus grandes adorations du cœur, avec l'espoir et encore plus grand l'amour. Donc, on doit tous demander à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat, le raffermissement. Al-thabat, ça me fait penser à ce que certains demandent, al-thabat. Il y a une différence entre les deux. Ce n'est pas le même sens. Là, ce qui est pris en considération, ce sont les sens voulus par le croyant. Mais il lui est demandé de corriger ses expressions et ses paroles comme il doit corriger ses intentions. De la même manière, il faut qu'il prononce le mot correctement. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala « al-thabat ala al-haq » la fermeté sur la voie de vérité, surtout à cette époque où les ambiguïtés sont nombreuses et répandues partout. Et shahawat, les plaisirs et les envies, sont également multiples pour éloigner le croyant de cette voie, sirat mustaqim, le droit chemin. Et parmi les causes les plus importantes, si ce n'est pas la plus importante d'une manière absolue, pour qu'Allah t'accorde ce thabat, ce raffermissement et cette fermeté sur la vérité que tu as connue, c'est une des adorations du cœur, qui est al-iftiqaru ila Allah, de sentir profondément et intensément ta dépendance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu ne peux rester ferme sur cette voie qu'avec la permission d'Allah, et non pas remettre ça à tes connaissances ou tes efforts dans la religion ou tes capacités intellectuelles. Non. ce n'est qu'un pur bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Et ça, c'est parmi l'essence de la parole qui représente un trésor du paradis, la parole « La hawla wa la quwwata illa billah ». Parmi l'essence de cette parole, c'est de sentir cette dépendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu ne peux faire une adoration qu'avec son aide. Comme tu ne peux t'éloigner d'un péché qu'avec son aide. Et tu n'attribues rien à ta personne. La hawla wa la quwwata illa billah. La tahawla an ma'siyatillah. Wa la quwwata ala ta'atillah illa billah. C'est ça son sens. Également, de maintenir ce bien qui t'a été facilité pendant Ramadan. Pendant Ramadan, tu as fait Qiyam al-Layl, tu as lu le Coran, tu as été assidu à la salat en groupe, tu as fait des sadaqat, tu as fait beaucoup de dua. Et ça, c'est une des plus grandes adorations en islam, dua. Qui te montre ton niveau de foi. Si on peut se permettre de l'appeler comme un thermomètre de ta foi. Ad-du'a. Que ce soit du'a al-ibada ou du'a al-mas'ala. Et dhikr. Yani c'est une adoration que tu peux faire à n'importe quel moment. Mais pourquoi on ne le fait pas? Et dernièrement, pendant ce ramadan, parmi les réflexions que j'ai eues avec certains frères, na'am, on peut faire dhikr, dire subhanallah, alhamdulillah. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire du'a de la même manière qu'on fait dhikr? Pourquoi on ne demande pas à Allah tout? Sahaba, ils demandaient à Allah tout. Même des choses, on ne s'imagine pas faire une dua pour avoir un peu de pain ou là, un peu de légumes. Ou là. Lakin, ça indique la force ou la faiblesse de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi les plus grands moyens et les plus grandes causes de cette fermeté sur la vérité, c'est de maintenir ce fort lien avec le Coran et de maintenir toutes les adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de faire pendant Ramadan. Certes, tu ne vas pas les faire avec la même intensité, peut-être pas avec la même quantité, mais de maintenir un minimum de toutes ces adorations. Qiyam al-Layl ne serait-ce qu'en faisant 3 raka'at. Le Coran, en lisant, ne serait-ce qu'un juz par jour. Ça te prend peut-être une demi-heure après le fajr. Et du'a également. Et l'assiduité sur la salat en groupe. Et aussi de faire des efforts pour apprendre ta religion. Car, ya ikhwa, la demande de science, c'est la plus grande cause qui te permet de faire le reste. Plus tu apprends ta religion, plus tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu connais ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tu vas fournir des efforts pour maintenir toutes ces adorations. Et plus ça te sera facilité. Yani quand tu connais Allah, tu l'adores pas comme quand tu le connais pas ou quand ta connaissance d'Allah est faible. La peur que tu as d'une chose que tu connais, ce n'est pas comme la peur que tu as de l'inconnu. Et l'amour également, et ainsi de suite. Qu'Allah nous accorde à tous la science bénéfique et profitable et nous facilite les œuvres pieuses et acceptables. Aujourd'hui, mes frères, nous allons parler du chapitre 57 de ce livre béni, le livre de l'unicité de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui traite le sujet le plus important d'une manière absolue en islam, qui est le sujet de Tawhid. Et dans ce chapitre, on se rapproche vers la fin de cet ouvrage très bénéfique et très profitable. Et cet ouvrage, il ne s'agit pas de le lire une fois ou de l'étudier une fois. C'est un sujet que tu dois garder avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Ce sujet d'une manière générale. Que ce soit à travers ce livre ou d'autres livres qui traitent du même sujet. Tawhid, c'est depuis que tu es sorti dans ce monde jusqu'à le quitter. C'est pour ça celui dont la dernière parole est la parole La ilaha illallah, qui est la parole de Tawhid, ira au paradis. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. Il entrera au paradis, car il ne pourra prononcer cette parole dans les derniers instants de sa vie, pendant l'agonie, que celui qui a vécu sur cette parole, que celui qui était sur Tawhid. Comme bien de personnes à qui on dit de répéter La ilaha illallah pendant l'agonie et qui n'arrivent pas à la répéter. Et certains même le disent. Ils disent « je n'arrive pas ». Il comprend, il entend, mais il n'arrive pas. Il ne dira cette parole que celui qui a vécu sur Tawhid, que le Mouahid, qui adorait Allah seul sans rien lui associer. Qu'Allah nous le permet à tous. Donc dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah, le chapitre qu'il a intitulé « Babu ma ja'a fil law ». Donc, ce qui a été rapporté dans les textes, dans ce chapitre, il va citer plusieurs textes dans lesquels ce terme est traité, ce terme est abordé, le terme « là où », si seulement. On va voir quand est-ce que dire « là où », qui signifie « si seulement j'avais fait ça » ou « si seulement j'avais pas fait ça », quand est-ce que ceci est blâmable et interdit, et quand est-ce que c'est autorisé, ou même c'est une bonne chose de le dire. Donc, nous allons voir qu'il y a 5 cas par rapport à cette expression. Et quand est-ce que c'est détestable de le dire, ou même interdit, et quand est-ce que ceci est autorisé, voire même recommandé. Donc, l'auteur, rahimallah, dans ce chapitre, a cité deux versets de Sourate Ali Imran. Il a cité Hadith Abi Huraira, radiyallahu anhu, wa ardaah. Et ce qui est voulu par ce chapitre, c'est de nous citer tous les cas de figure qui concernent cette expression. Et quand est-ce qu'on peut le dire et quand est-ce qu'on ne peut pas le dire. Et d'une manière générale, c'est détestable, voire interdit. On va voir les détails. Là, je vais vous citer les règles d'une manière globale. Celui qui le dit par regret ou d'une manière à montrer son insatisfaction du décret et de la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou celui qui le dit en montrant et en manifestant son impatience. Donc c'est dans ces cas-là que ceci est interdit. Et le lien avec entre ce chapitre et le livre que nous étudions, qui est le livre de l'unicité, c'est que celui qui dit cette parole, qui dit cette expression « là où », par regret, par rapport à ce qui est passé, ça indique qu'il n'accepte pas le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous savez, la foi au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la prédestinée, ça fait partie des 6 piliers de la foi. Et c'est intimement lié à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est intimement lié à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par rapport à l'utilisation de cette expression, là où, il faut savoir quelle est son utilisation et de deux catégories. La première catégorie qui est blâmable, Elle comporte 5 types. Et ça, c'est quand il le dit pour montrer son rejet d'une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestinée. Et ça a été interdit car, comme on va voir dans le hadith, elle ouvre la porte du shaitan et elle permet au shaitan de travailler sur le croyant quand il dit là où, si seulement j'avais pas fait ça. Ça ouvre le travail de shaitan. Donc le premier cas, quand on le dit par regret et par mécontentement face au décret d'Allah et avec une tristesse. Donc dans ce premier cas, il est interdit de le dire car il n'y a aucun profit, aucun intérêt à dire si seulement j'avais pas fait ça. Yani, il n'y a pas d'intérêt en cela, sauf le fait que le shaitan augmente la tristesse du croyant. Et comme vous savez, ça c'est parmi les objectifs de shaitan. C'est parmi les objectifs de shaitan avec le croyant de l'attrister. D'attrister le croyant, ça fait partie des stratagèmes de shaitan. Car un croyant triste, c'est un croyant qui sera faible dans ses adorations et qui n'aura pas la force et yani, la détermination nécessaire dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à un croyant joyeux, un croyant optimiste qui va mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ لِيُحْزِنَ الَّذِينَ آمَنُ. Shaitan, parmi ses objectifs, c'est de rendre le croyant triste. C'est pour ça que si vous regardez dans les textes, vous allez trouver qu'il y a toujours l'appel à l'optimisme, au bonheur, à la joie. Tu rends visite à un malade, tu lui dis « La ba'sa, shifa un tahurun, insha'Allah ». Et il y a beaucoup d'exemples dans la religion comme ça. Ou on va dire, dans la religion, vous savez que la règle générale, qui est bafouée dans les réseaux sociaux, même par ceux qui prétendent appeler à l'islam, illa man rahim Allah, la règle générale dans l'islam, c'est qu'on propage le bien et on le répand. Et on cache le mal et les péchés. Lakin, si vous regardez, vous allez trouver qu'à chaque fois il y a un mal, il y a un péché, il est propagé partout. Et le bien, il est dissimulé, il est caché. Et ça, c'est le travail de Shaitan. Amma, le travail des croyants, il propage le bien. Car il y a dans le fait de propager le bien un encouragement pour les gens à faire le bien. Et quand tu propages le mal, ça va aider à faire le mal et à banaliser le mal chez les gens. Tout le monde le fait, donc c'est pas un problème. Comme ils disent, إِذَا عَمَّتْ هَنَتْ. Si tout le monde fait une chose, c'est pour ça que vous entendez de la part de l'awam, en général, quand tu lui dis il ne faut pas faire ça, il dit mais tout le monde le fait. Ce n'est pas un argument que tout le monde le fasse. 1 sur 1000 des fils de Adam seulement sera sauvé. La majorité n'a jamais été un argument qu'une chose est un bien ou un mal. On revient au texte. Seulement. Donc ça, c'est le premier cas. Quand la personne répète cette parole en manifestant son regret et son mécontentement et sa tristesse par rapport à une chose passée. Le croyant, il lui est demandé de se concentrer sur son quotidien, sur sa journée. Car ce qui est passé, est passé. Et ce qui est à venir, t'es pas sûr de le vivre. Lakin, ce que tu possèdes en réalité, c'est le jour dans lequel tu vis. Concentre-toi sur tes activités de ta journée. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Pourquoi se préoccuper par quand je vais faire ça, et si Hadi, demain, et l'avenir? Tout ça, ça fait partie du travail de Shaitan, et en général, les gens qui sont touchés par ça, c'est des gens qui n'ont pas des journées, qui ont beaucoup de vide dans leur journée. Qui sont un peu dans l'oisiveté. Amma, quelqu'un qui a des activités réparties sur toute sa journée, tu ne vas pas trouver qu'il pense beaucoup à l'avenir. Et il a pas les soucis de l'avenir comme il n'a pas la tristesse du passé. C'est pour ça que le Nabi a cherché refuge auprès d'Allah contre les deux. Contre le ham et contre le huzn. Et contre la paresse et contre l'impuissance. Et contre l'avarice. C'est des choses contre lesquelles Nabi sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge auprès d'Allah souvent. Contre le ham, sur ce qui est à venir, les soucis sur ce qui est à venir. Et la tristesse sur les choses passées. Le croyant, il vit sa journée. Non, il n'a pas la garantie que demain il sera des vivants. Du nombre des vivants. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala prendra son âme. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, j'ai cité le premier point qui concerne le regret, le mécontentement et la tristesse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui comporte une impolitesse avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une impolitesse avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout ce qui arrive dans la création d'Allah, ça a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la chose qui se passe, tu ne peux pas demander à Allah si seulement elle serait passée comme elle s'est passée. Nous, on ne connaît pas le décret d'Allah. Al-Qadr, sirrullah. Le décret, c'est le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment tu sais que ça a été décrété par Allah? Tu le sais seulement quand ça se produit. Donc quand une chose se produit, tu es sûr qu'Allah l'a voulu. Et ne pas le vouloir, c'est aller à l'encontre de la volonté d'Allah. Donc ça comporte une forme d'impolitesse vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'est demandé de faire les causes avant que la chose arrive. Lakin, une fois que la chose arrive et se produit, tu dois montrer ton acceptation et ta soumission à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, j'ai dit, il y a cinq cas de figure. Le premier, c'est celui qui utilise là-haut, si seulement. Celui qui utilise là-haut par opposition à la législation. Par opposition à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le premier cas. Tout à l'heure, j'ai cité les deux points pour lesquels cette expression n'est pas autorisée. Elle ouvre la porte de la tristesse, le regret, le mécontentement et une forme d'impolitesse vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les cinq cas, le premier, quand on l'utilise par opposition à la législation d'Allah. Ceci est interdit et ça fait partie des grands péchés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet dans un verset qui a été révélé suite à la bataille de Uhud. Suite à la bataille de Uhud qui s'est déroulée entre le prophète alayhi salam et les compagnons contre Kuffar Quraysh. Des gens ont dit, quand vous savez que la bataille dans laquelle il y a eu le plus de morts dans les rangs des musulmans, c'est la bataille de Uhud. Et ce n'est pas comme les guerres d'aujourd'hui, par millions, là, par milliers. Il y a eu 70 martyrs dans les rangs des musulmans. Et ça, c'est le plus grand nombre qu'il y a eu de morts dans une bataille que les croyants ont menée avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Les batailles que les croyants ont menées avec le prophète alayhi salam sont au nombre de 27. Il y en a qui citent d'autres, là, qui la plupart des savants disent 27 batailles que le prophète alayhi salam a menées durant toute la période médinoise. Car le combat des kuffars était interdit à Mecca. Il a été autorisé à Médine. Et donc, suite à cette bataille et à ce grand nombre de morts dans les rangs des musulmans, des gens ont dit لو أطاعونا ما قتلوا si nous avaient obéi, ils ne seraient pas tués. Parce que le prophète عليه الصلاة والسلام a demandé l'avis des gens. Est-ce qu'on sort pour rencontrer le kuffar avant qu'ils arrivent à Médine ou on attend qu'ils arrivent à Médine? Et le Nabi عليه الصلاة والسلام ne voulait pas le plus difficile pour les croyants. Il n'a jamais eu le choix entre deux choses sans qu'il choisisse le plus facile pour les croyants. عليه الصلاة والسلام. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. عليه الصلاة والسلام. Comme notre mère Aïcha dit. Donc, le prophète عليه الصلاة والسلام était d'avis pour faciliter aux croyants qu'ils attendent à Médine. Lakin Sahaba, ces hommes courageux, braves, ont dit non. On n'attend pas qu'ils arrivent à Médine. On va sortir les intercepter avant qu'ils arrivent. Parce qu'à Médine, ils peuvent faire des dégâts au niveau des familles, des femmes, des enfants. Et certains qui avaient une faiblesse dans leur foi, ou des hypocrites déclarés, comme Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, ont dit non, on attend à Médine. Pourquoi on sort? Eux, en réalité, surtout les hypocrites, ils voulaient juste éviter la bataille. C'est pour ça, même en sortant avec les croyants, ils ont fini par faire demi-tour. Et Abdullah ibn Ubay est revenu avec un tiers de l'armée. Ils n'étaient pas tous des hypocrites déclarés comme lui, mais il y avait des croyants qui ont été touchés par ses ambiguïtés et ses stratagèmes. Il est revenu avec un tiers de l'armée, 300 et quelques. Et suite à la bataille, quand il y a eu tous ces morts dans les rangs des croyants, 70 martyrs qu'Allah a choisis pour leur accorder les degrés les plus hauts du paradis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « Law ata'una ma qutilu ». Donc là, ils l'ont utilisé par opposition à la législation d'Allah. Car le prophète a ordonné de sortir. Et ça, c'est comme quelqu'un qui va l'utiliser pour s'opposer à une législation d'Allah. Pourquoi Allah, si seulement Allah n'avait pas légiféré si seulement Allah n'avait pas légiféré telle chose, si seulement Allah n'avait pas légiféré telle chose, par opposition à la législation, et ça c'est interdit, c'est un grand péché. Le deuxième cas, pour ceux qui l'utilisent par opposition au décret d'Allah. Faut faire, mes frères, c'est parmi les choses très bénéfiques et très importante dans notre religion, c'est que tu arrives à faire la différence entre le décret et la législation. Al-farqu bayna al-qadr wa al-shar'. Ça, c'est d'une très grande importance. Je vous cite une anecdote qui est arrivée à une femme. Une femme qui a fait beaucoup de causes pendant plusieurs années pour tomber enceinte, qui n'arrivait pas à tomber enceinte. Elle a consulté des médecins, elle a fait beaucoup de causes. Et après, elle a faibli et elle a été invitée par certains égarés à aller égorger pour Sidi Intel qui donne les enfants. Et elle l'a fait. Et ça, c'est quoi dans la législation? C'est du shirk akbar. C'est un acte d'associationnisme majeur qui fait sortir de l'islam. Une adoration vouée à autre qu'Allah. Le sacrifice est une adoration. Fasalli li rabbika wanhar. Et pas pour Sidi Antel ou Antel, tu fais le nahar. Tu le fais pour Allah seulement. Comme toute adoration. Suite à cela, peu de temps, elle est tombée enceinte. Et donc, elle a dit que voilà, si elle est tombée enceinte après avoir fait ça, c'est que c'est un bien. Donc elle a pris le décret d'Allah comme argument pour légitimer ce que Allah a interdit dans sa religion et dans sa législation. Nous, mes frères, on n'est pas concernés par les décrets. On est concernés par la législation. On n'est pas concernés par les décrets. Yani, du moment que ça arrive comme ça, donc c'est un bien. Non, on regarde ce qu'Allah dit dans sa religion. Et de toute manière, il faut savoir que cette femme allait tomber enceinte. Comment je l'ai su? Parce que c'est arrivé. C'est juste qu'elle s'est précipitée et elle a fait des causes haram. Elle serait tombée enceinte. Allah l'avait décrété. Lakin, elle l'a précipitée avec des choses haram, en commettant des choses haram très graves. Donc, il ne faut jamais confondre la législation et le décret. Donc, ceux qui utilisent cette expression par opposition au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça aussi, c'est interdit. Et c'est la même gravité que ceux qui s'opposent avec à la législation d'Allah. Ces choses sont interdites, sont haram, ça peut arriver à la mécréance. Ça peut arriver à la grande mécréance. Lakin, le jugement qui regroupe tout ça, c'est que c'est haram, c'est interdit, c'est pas permis. L'exemple, comme Allah dit également, « Ya ayyuha alladhina amanu la takunu kalladhina kafaru wa qalu li ikhwanihim » إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. Donc, dans le sens approximatif, qu'est-ce qu'ils ont dit? كانوا غزا. Ils ont dit: ô les croyants, ne soyez pas à l'image des impies qui disent, des mécréants, qui disent de leurs proches partis en voyage ou au combat, s'ils étaient restés auprès de nous, ils ne seraient pas morts ou n'auraient pas été tués. Après, dans la suite du verset, paroles par lesquelles Allah ne fait qu'accroître leur affliction et leur regret. Or, c'est Allah seul qui maintient en vie ou qui donne la mort. Allah voit parfaitement ce que vous faites. Donc, ils ont dit cette parole. Ils ont dit, si seulement ils seraient restés auprès de nous en s'opposant au décret d'Allah. Car Allah a prédestiné que ces gens allaient sortir et allaient mourir. Comment on l'a su? Parce qu'ils sont sortis. Quand est-ce qu'on connaît le décret d'Allah? Quand ça arrive. Sinon, avant, c'est un secret d'Allah. Avant, qu'est-ce que tu connais? Tu connais la religion d'Allah. Tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça, ça c'est haram, ça c'est autorisé, ça c'est un bien, ça c'est un mal. Comment on reconnaît ces choses-là? Avec la législation. Et quand est-ce qu'on sait qu'Allah l'a décrété? Quand il se produit. Donc, étant donné que cette chose s'est produite, le fait de s'exprimer de cette manière représente une opposition au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est interdit. Le troisième cas, ceux qui l'utilisent pour manifester leur regret et leur remords, ça aussi c'est interdit. Car les regrets et les remords ne sont d'aucun profit une fois que la chose s'est produite. Au contraire, ça ne cause que du mal pour le croyant, ça l'affaiblit. Ça affaiblit sa confiance en Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous le bonheur et la joie et la gaieté et le déploiement dans le bien. Et le déploiement dans le bien. Comme le Nabi alayhi salam a résumé tous ses sens d'une manière excellente et parfaite, car alayhi salam, Allah lui a donné Jawami'ul Kalim. En très peu de paroles, il peut exprimer des sens très larges. Écoutez ce hadith magnifique. Et tous les hadiths du prophète alayhi salam sont magnifiques. Dans lequel il dit, ihris, ce hadith, ça te résume la vie, comment tu dois être dans toutes tes affaires mondaines et religieuses. Comment doit être, c'est quoi l'état d'esprit d'un croyant? Ce hadith, il le résume. C'est quoi un homme fort? Ce hadith le résume. Et l'inverse, c'est les hommes faibles. Il dit, alayhi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billahi, wa la ta'jiz. Et dans une autre riwaya, wa la ta'jizan. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Et ça, c'est le hadith que l'auteur, rahimahullah, a cité après les deux versets de Surat Ali Imran. Dans ce hadith rapporté selon Abu Huraira, le messager d'Allah, alayhi wa sallam, dit « Cherche, ihris ala ma yanfa'uk, sois attaché, et cherche assidûment ce qui t'est profitable. » Donc, « ma yanfa'uk », comment tu vas savoir ce qui t'est profitable ? À travers la religion. Tu sauras ce qui t'est profitable. احرص على ما ينفعك. واستعن بالله. Donc, sois attaché à ce qui t'est profitable. Et demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تعجز. Et ne baisse pas les bras. Ne sois pas, ne deviens pas impuissant. Reste fort. وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ. Donc après avoir fait ces choses-là, on va revenir à l'explication de ce hadith quand on va le lire après les versets. Et si tu es touché par une chose que tu détestes ou là que tu n'aimes pas, ne dis pas alors à ce moment-là, si j'avais fait telle ou telle chose, il serait arrivé ceci ou cela. Yani, quel intérêt à revenir sur ces choses-là si j'avais pas fait ça, si j'avais fait ça. Ça ne change absolument rien. C'est juste quelque chose qui va t'attrister et qui va t'affaiblir et qui va diminuer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce que tu dois dire? Mais dis plutôt, c'est le destin d'Allah, c'est le décret d'Allah, il fait ce qu'il a voulu. Car le fait de dire si permet l'agissement du shaitan ou la ouvre la porte du travail de Shaitan. Donc ça, c'est le troisième cas. Le quatrième cas, de l'utiliser en prenant le décret d'Allah comme un argument, s'appuyer sur le décret d'Allah pour légitimer un péché. Comme le kuffar ont dit, Allah nous dit d'eux dans le Coran, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Écoutez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit « لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا » Ils ont dit « Si Allah avait voulu, on ne serait jamais tombé dans l'associationnisme. » Donc, ils se sont appuyés sur le décret pour légitimer le péché qui est interdit dans la religion. Et ça, c'est comme ce que certains dans nos pays disent. Quand tu le blâmes sur un péché qu'il a commis, il te dit « Allah ghalb ». Allah ghalb. C'est la même chose. Il n'a pas dit « Law », mais « Allah ghalb ». Ça, c'est par rapport à Al-Qadr, c'est une secte égarée qui s'appelle Al-Jabriya. Ils disent « On n'a pas le choix. On n'a pas le choix dans ce qu'on fait. » Si jamais tu rencontres quelqu'un comme ça qui te dit « On n'a pas le choix », on est forcé d'agir de cette manière, on ne choisit pas, bah, tu ne lui donnes pas une claque sur le visage, là, c'est haram sur le visage, mais un coup quelque part, comme ça, et tu lui dis, c'est Allah ghalb. Faut pas me blâmer. J'ai pas choisi. Anna. C'est comme ça. Là, il ne va pas accepter. Donc, tu lui dis à ce moment-là, bah, c'est pas Allah ghalb. T'as une part de responsabilité. Le décret, en réalité, c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il sait ce que tu vas faire. Ça ne veut pas dire ça t'autorise à faire le mal. Allah t'a envoyé les prophètes et a révélé les livres pour t'indiquer la bonne voie, la voie de la droiture, et te mettre en garde contre la voie de l'égarement. Donc, il n'y a pas Allah ghalb. Allah ghalb, c'est vrai dans un sens. Lakin, quand tu fais le péché, t'assumes. Et tu fais le nécessaire dans la religion qui est le repentir. Tu reconnais ton erreur et tu te repens et Allah il te pardonne. C'est pour ça ils ont dit « لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا » Et ils ont dit « وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ » Et ça c'est caduque. Ils ont dit « Si Allah avait voulu, si le tout miséricordieux avait voulu, on les aurait pas adorés. C'est-à-dire l'adoration des idoles et des statues. Et ça, c'est caduque. Tu ne t'appuies pas sur le décret d'Allah pour légitimer tes péchés. Car dans la religion, quand tu commets un péché, il t'est demandé de te repentir et de réparer le mal que tu as causé, si c'est un mal vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis des créatures. Amma de dire Allah ghalab ou si Allah avait voulu, je ne l'aurais pas fait, ça c'est caduque. Le quatrième ou le cinquième cas, j'ai cité quatre. D'abord, voilà le cinquième. Le cinquième, c'est de l'utiliser en souhaitant le mal, en souhaitant le péché. En souhaitant le péché. Par exemple, comme dans le hadith, cet homme qui a dit, si j'avais, en voyant un homme qui était aisé, qui avait beaucoup de fortune, et qui faisait les péchés, les désobéissances, il a souhaité, si seulement il avait l'argent comme lui, il aurait fait les mêmes péchés que lui. Ça, c'est haram aussi, l'utiliser dans ce sens-là. Par contre, quand est-ce que c'est autorisé? C'est autorisé dans deux cas. Le premier, quand tu souhaites le bien. Dans le même hadith, il y a l'exemple de l'homme qui avait un homme aisé et qui faisait beaucoup de bonnes œuvres et qui a souhaité, si seulement il avait le même argent, la même fortune que lui, pour faire le même bien que lui. Et ça, c'est un domaine très vaste dans la religion. Tu peux arriver à beaucoup de hasanat sans rien faire. Si Allah m'avait donné, lakin à condition d'être sincère et d'être véridique. Ce n'est pas des paroles. Tu dis, si Allah me donne l'argent, je construirai un hôpital pour les gens qui n'ont pas les moyens. Si Allah me donne l'argent, je construirai un orphelinat. Une école pour enseigner le Coran et la Sunna. Et ça, c'est encore meilleur que ce que j'ai cité avant. Car la propagation de la science, c'est la chose la plus méritoire. Yani avec les hôpitaux et l'orphelinat, tu préserves les corps des gens. Et avec la science, tu préserves leur cœur et leur éternité. Amma a dit, tu vas le préserver dans cette dunya. Peut-être qu'il mourra mécréant. D'où le mérite de la science. Il n'y a rien qui arrive au mérite de la science. Fadlul ilmi khayrun min fadlil ibada. Hadith authentique. Le mérite de la science est supérieur au mérite de l'adoration. Lakin, ça ne veut pas dire que le croyant doit négliger les adorations, qu'il aide à réformer son cœur et se rapprocher d'Allah et améliorer son comportement. Mais pour montrer juste le mérite de chaque chose. Et la place de chaque chose dans la religion. Et le deuxième cas où c'est autorisé, voire même recommandé, c'est dans un bien yani, que tu n'as pas pu faire avant. Le premier cas que j'ai cité, c'est dans un bien, souhaiter un bien que tu n'as pas. Yani, comme souhaiter de l'argent pour faire la même chose qu'un homme pieux. Lakin, le deuxième cas, c'est aussi dans le souhait, mais en souhaitant faire une chose meilleure que comme tu l'as fait. Comme a dit notre mère Aïcha radiallahu anha, ou avant de citer ce que notre mère Aïcha a dit, de citer d'abord ce que le Nabi lui-même a dit. Il a dit, لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولو أن معي الهدي لأحللت. Nabi عليه الصلاة والسلام, vous savez que quand il a fait son pèlerinage, il a ramené avec lui ses sacrifices, son chameau. Il a sacrifié avec sa propre main, alayhi salatu wasalam, 63 chameaux. Et sacrifier un chameau, c'est pas une mince affaire. Un seul. Il faut voir ceux qui sacrifient les chameaux aujourd'hui, en général, c'est que des Soudanais, des hommes très forts, habitués. Et ni un seul chameau, Nabi al-Islam a sacrifié 63 avec sa propre main. Il a confié le sacrifice du reste à Ali radiallahu anhu. Et Nabi alayhi salam, par la suite, il a dit, si seulement je n'avais pas ramené avec moi mon sacrifice, j'aurais changé mon intention en une umra et j'aurais fait la formule de tamattu, pèlerinage, on peut traduire par jouissance, c'est-à-dire tu vas faire l'umra, tu vas te désacraliser et attendre le 8 du mois de l'Hijja et tu vas commencer le pèlerinage. Ça, c'est la meilleure forme de faire le hajj. Lakin, Nabi A.S., étant donné qu'il a ramené son sacrifice, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas se désacraliser jusqu'à sacrifier. Et le sacrifice, c'est pendant le hajj. Le 10 du mois de l'Hijja, le jour de l'Eid pour les gens qui sont en dehors du pèlerinage. Donc, il ne pouvait pas le faire. Il a dit, si j'avais la possibilité, je n'aurais pas ramené avec moi mon sacrifice et j'aurais fait at-tamattu. Donc là, c'est en souhaitant un bien pur, meilleur que le bien qu'il a fait. Et comme notre mère Aïcha radhiyallahu anha a dit également, elle a dit لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غيري او غير ازواجه او كما قالت radhiyallahu anha. Car ceux qui ont lavé le prophète Aïcha salam, c'était des membres de sa famille. Ali radhiyallahu anhu, l'Abbas, elle a dit si j'avais la possibilité de revenir en arrière, ça serait moi qui aurais lavé le prophète alayhi salatu wassalam, ses épouses. Car vous savez que l'homme peut être lavé, l'homme doit être lavé obligatoirement par des hommes, sauf l'époux qui peut être lavé par son épouse. Et l'épouse doit être, et la femme doit être lavée obligatoirement par des femmes, sauf l'épouse qui peut être lavée par son époux. Et de cette manière, si vous avez compris ces 5 ou plutôt ces 7 cas, vous comprendrez le verset, les deux versets que l'auteur rahimahullah a cités. Le premier dans lequel Allah dit يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, et allez, en parlant, ça c'est le premier verset, en parlant des hypocrites, ils disent si nous détenons quoi que ce soit de l'ordre, nous n'aurions pas été tués ici. Nous n'aurions pas été tués ici. Donc ça c'est les hypocrites qui l'ont utilisé pour s'opposer au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, le devoir des croyants face à cela, c'est d'accepter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'espérer sa récompense immense sur ce qui s'est produit subhanahu wa ta'ala. Également dans le deuxième verset, الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. C'est ce qu'on a vu. Ça a été utilisé pour s'opposer à la législation d'Allah cette fois. Donc, dans les deux cas, nous avons vu que c'est interdit. Et c'est très grave. Tu dois accepter la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois savoir, tout croyant doit être ainsi. Tu dois accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Et savoir que le bien, il est dans ce que Allah a légiféré. Après, si on trouve des problèmes dans les couples polygames ou là dans des choses qu'Allah a légiférées, il faut savoir que l'erreur, elle n'est pas dans la législation d'Allah. L'erreur, elle est dans la pratique et l'injustice de certains époux. L'erreur, elle est des gens. Mashi dit la législation. La législation, c'est, si on peut l'exprimer comme ça, c'est un pack complet. Yani, ça a été légiféré avec des conditions. Si c'est respecté, il n'y aura pas d'injustice. Ça sera un bien pur de tous les points de vue. Et ça, c'est valable pour tout ce que Allah a légiféré. Allah t'a interdit de fumer. Si tu ne respectes pas, va fumer. Bousille tes poumons. Bousille ta santé. Gaspille ton argent, donne-la à tes ennemis. Qu'est-ce qu'on va te faire hier? Allah t'a interdit de boire l'alcool. Vas-y, crois à ceux qui te disent c'est bon pour la santé, si c'est consommé avec modération, mais ils te mentent hier. Demande à un médecin spécialisé, il va te dire l'alcool, c'est un poison que tu fais rentrer dans ton corps. C'est comme ça que les médecins décrivent l'alcool. Le vin, c'est un poison que tu fais rentrer dans ton corps. dès que tu bois une goutte d'alcool, ton foie, il est en alerte maximale. Car si jamais un tout petit peu de cet alcool arrive au cerveau, ça te bousille le cerveau. C'est pour ça qu'il doit le... Il doit le dégrader avant qu'il n'arrive au cerveau. C'est pour ça que ça donne un travail immense au foie de boire de l'alcool. Vas-y, bois. Tu veux perdre ta raison, devenir comme un fou. Qu'est-ce qu'on va te faire hier? Tu veux devenir un fou, un débile, alors qu'Allah t'a distingué par la raison. Tu réfléchis. Vas-y, bois l'alcool. Tant pis pour toi. Et ça, c'est par rapport à tout ce que Allah interdit. Allah, il ne t'interdit pas pour te priver. Comprends ça. Allah, il t'interdit pour ton bien. Il t'a interdit de faire la fornication. Tu trouves un plaisir à le faire. Et, dans les mots qu'il y a dans la fornication, si on veut les citer, on peut passer des heures et des heures à en parler. Déjà, est-ce que tu acceptes ça pour ta sœur? Pourquoi tu l'acceptes pour les autres? Et aussi, si jamais cette femme tombe enceinte, ça sera un enfant d'adultère à vie. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais réparer. Un enfant né hors relation légiférée, hors relation légitime, c'est un enfant d'adultère à vie. Il ne t'est pas attribué. Il est attribué uniquement à sa mère. Et beaucoup de gens ont des enfants hors mariage, ils ne le savent même pas. La femme ne leur dit pas. Elle le garde pour elle. Il y a des femmes qui travaillent, qui ont un poste, qui ont un salaire. Elle n'a pas besoin d'un mari. Elle a besoin juste d'un enfant. Elle fait avec lui un enfant et elle ne lui dit même pas. Et après, ouais, il fait avec une autre. Et qui te dit que Hadou, il se marie avec leur sœur. Issue du même père biologique. Ça doit arriver souvent à Chif Al-Koufa. C'est pour ça qu'Allah nous a interdit ça. Tu veux une femme, Allah t'a donné des femmes d'une manière autorisée, en prenant tes responsabilités. Les gens, ils choisissent la fornication parce qu'il y a la facilité. Ils veulent changer des femmes comme ils changent de chemise et de vêtements. Là, dans l'islam, il faut que tu sois responsable. Tu t'engages avec cette femme. Tu la respectes. C'est la mère de tes enfants. C'est ta sœur en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah veut pour toi. Tu veux être comme le lion, comme les animaux. Qu'est-ce qu'on va te faire hier? Et ça, c'est par rapport à tout ce que Allah t'a interdit, c'est pour ton bien. Allah ne tire aucun profit de ce qu'il t'a interdit. Et aussi par rapport aux ordres qu'il t'a donnés et les obligations. T'imagines, Yahri? Wallahi, à chaque fois je médite sur ce point, je réalise une ni'ma immense d'Allah sur moi. Je ne vais pas parler de tawhid, c'est déjà l'adhan. Là, on va parler de salat en groupe. Wallahi, à chaque fois que je médite sur la salat en groupe, je réalise la ni'ma immense d'Allah sur moi. Allah m'a imposé d'aller 5 fois par jour dans une mosquée et de rencontrer mes frères et de faire une salat derrière un imam et d'être dans des situations optimales pour le khushu' et de me ressourcer en parlant avec mon créateur subhanahu wa ta'ala. 5 fois par jour, regarde comment c'est réparti. Dès que tu commences ta journée, et en terminant ta journée, tu la termines avec salat. Pour ceux qui dorment après l'Isha et qui suivent cette sunna. Tu commences ta journée et tu la termines avec un contact direct avec Allah. As-salat, c'est une liaison, comme son nom l'indique. Salat, c'est là. C'est une liaison entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une ni'ma immense. C'est pas une lourdeur. C'est pas un fardeau. C'est pas une charge. C'est une ni'ma immense d'Allah qu'il t'est imposé. Et ceux qui ont goûté à cette ni'ma de la salat en groupe, quand ils sont privés malgré eux de cette salat, wallahi, c'est plus pénible et dur pour eux que de perdre des milliers d'euros. Quand il n'a pas le choix par rapport à un travail ou là par rapport à... Et il fait la salat, il ne peut pas faire la salat en groupe. C'est une grosse perte pour lui. Et c'est des regrets profonds qu'il a. Ou là, quand il n'accomplit pas une salat avec une excuse valable, par exemple, il ne s'est pas réveillé. Ou là, il a oublié. Même dans ces cas-là, il a des regrets. pas par rapport au péché, mais par rapport au bien à côté duquel il est passé. Il est passé à côté d'un grand bien. Allahu Akbar. Donc, pour terminer avec ce hadith, Nabi alayhi sallam dit « Ihris ala ma yanfa'uk » « Sois attaché à ce qui t'est profitable » dans tes affaires mondaines et dans tes affaires religieuses, les affaires de l'au-delà. En islam, on n'aime pas les gens paresseux qui passent leur journée à rien faire, comme ils disent, à se tourner les pouces. L'islam, il faut que tu sois occupé. Par ta religion, là, par une activité mondaine. Comme disait Abdullah ibn Mas'ud, il détestait l'homme qui n'a pas d'occupation, ni religieuse, ni mondaine. En islam, il n'y a pas de place au vide, ou à la paresse, ou au fainéantisme, ou à l'oisiveté, ou là. Hachi, ça ouvre la porte du travail de shaitan par l'ouest-ouest. Comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont touchés, beaucoup de gens qui sont touchés par ces wasawis. Quand tu regardes, la personne, elle ne fait rien de sa journée. T'imagines quelqu'un, sa journée, elle est remplie depuis qu'il se réveille jusqu'à ce qu'il s'endorme. Quand est-ce que shaitan, il va lui faire l'ouest-ouest? Il n'a pas de temps pour lui faire l'ouest-ouest. Il est dans ça, après il est dans ça, hadith, dunya, l'akhira, l'akhira, dunya. Ils alternent. Dans une course contre le temps. Hada, ma andouch, hatta shaitan, il ne trouve pas le temps. Allah al-musta'an. Donc, le Nabi al-Islam, il dit, sois attaché à ce qui t'est profitable. Dans le dunya et dans l'akhira. Donc, fais de ton maximum pour avoir ce qui t'est profitable. D'abord, il faut que tu saches ce qui t'est profitable. Et l'homme qui connaît le mieux ce qui lui est profitable, c'est l'homme, notez-le bien ça, c'est l'homme qui connaît le plus Allah. Plus tu connais Allah, plus tu sauras ce qui t'est profitable. Les gens, beaucoup de gens pensent que ça c'est profitable. C'est pour ça qu'ils sont amenés à délaisser certaines choses qu'Allah a dit de faire pour d'autres choses parce qu'ils estiment que c'est plus profitable pour lui. Et ça, c'est pas grave. Donc, quand est-ce que tu sauras réellement ce qui t'est profitable dans dunya, pour ta santé? Allah, il te guide. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas avant. Et Allah nous a guidés vers ces choses-là, et après, on a réalisé que c'est un bien. Comment manger, comment dormir, comment hadith, qui rencontrer, qui ne pas rencontrer. Beaucoup de ces choses-là, peut-être que la personne, si elle revient en arrière, elle trouve qu'elle ne les a pas fait forcément avec une science. Mais c'était comme ça. Et après, tu réalises avec la science que c'est ça le bien. Allah, il te guide dans tous les domaines. Comme boire des tisanes le soir. Ça, c'est une ni'ma immense. Ça t'apaise, ça te tranquillise, ça t'aide à dormir et à te réveiller le lendemain en forme. Ihris ala ma yanfa'uk. Et comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim, le bonheur de l'individu, c'est dans son attachement à ce qui lui est profitable dans le bas-monde et dans l'au-delà. C'est ça la clé du bonheur. C'est que tu sois attaché, tu ne sois pas dans des futilités, dans des choses secondaires, dans des choses futiles, dans une perte de temps. Ça, c'est un signe de malheur. Un signe de succès et de réussite, c'est que tu trouves que tu es attaché à ce qui t'est profitable. Ce qui t'est profitable, il faut que tu subviennes aux besoins de tes enfants et de ta famille. Il faut que tu apprennes ta religion. Tu trouves que ta journée, elle est dans ça. Et le summum du bonheur, comme il dit l'imam Nourkaïm toujours, il dit, et le summum du bonheur, c'est d'être attaché à c'est d'avoir ces deux points. D'être attaché et attaché à ce qui t'est profitable. Car il y a des gens qui sont attachés à ce qui leur est nuisible. Donc, à la fois attaché, il y a des gens qui n'ont pas d'attachement. Yani, ils ne sont pas attachés du tout, yani, peu importe ce qui arrive pour lui. Il est pas soucieux. Et ceux qui sont attachés, il y en a qui sont attachés à ce qui ne leur est pas profitable. Donc, le fait d'avoir les deux, c'est ça le summum du bonheur. Ensuite, Nabi a dit « Wasta'in billah ». Donc, avec ton attachement à ce qui t'est profitable, il faut que tu aies la demande d'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu sais que tu ne peux rien sans l'aide d'Allah. Ce n'est pas parce que tu es attaché que tu vas réussir. Ce n'est pas parce que tu es assidu que tu vas obtenir ce que tu souhaites. Tu as besoin de l'aide d'Allah. Donc, vous constatez que l'attachement a lieu avant l'acte. Et la demande d'aide vient, yani, accompagne l'accomplissement de l'acte. Accompagne l'accomplissement de l'acte, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Donc ne compte pas seulement sur ton attachement, sur tes efforts. Lakin, demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide. Fais les causes et demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide. Nabi Rasulallah a résumé cette règle capitale dans la vie du muslim. Il a dit, i'qilha wa tawakkal. Attache ta monture et place ta confiance en Allah. C'est pas tu dis, je place ma confiance en Allah, je la laisse comme ça, sans l'attacher. Faut que tu fasses les causes, légiférer, et tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jizan, ne sois pas impuissant. N'agis pas de la manière de l'homme impuissant, l'homme faible. Mais sois un homme déterminé, un homme avec une grande volonté. Et après avoir fait tout ça, alors accepte ce qui arrive. Soumets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite, il a dit, « Wa in asabaka shay'un » s'il t'arrive une chose que tu détestes, s'il t'arrive un malheur, tu es touché par un malheur, alors à ce moment-là, comment tu dois agir? Ça, c'est comment on agit avant. Comment on agit si on est touché par une chose qu'on déteste? Il a dit, « Wa in asabaka shay'un » fala taqul law fa'altu kaza wa kaza lakana kaza wa kaza. كما قال عليه الصلاة والسلام فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. Ne dis pas si j'avais fait ça, j'aurais pu éviter ce malheur ou cette catastrophe. Mais dis plutôt قدر الله وما شاء فعل. C'est le décret d'Allah et Allah il fait ce qu'il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Car le fait de dire si seulement j'avais fait ça ou là j'avais pas fait ça, ça ouvre la porte du travail de Shaitan, c'est-à-dire les wasawis qu'il jette dans le cœur de l'individu et du serviteur, et aussi les regrets, les remords qu'il lui donne, et la tristesse, et ainsi de suite. Inna man najwa min ash-shaytani liyahzuna alladhina amanu. Peut-être que tout à l'heure je me suis trompé dans le verset. Là, le verset c'est comme ça, inna man najwa min ash-shaytani لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا, pour attrister les croyants. Et en résumé, mes frères, on ne doit pas dire si, là où, on ne doit pas le dire d'une manière à manifester des regrets ou des remords par rapport à ce qui s'est passé. Mais on doit faire preuve de patience et d'acceptation et de soumission au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceci diminue at-tawhid, voire ça peut arriver dans des cas à l'annuler. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Voilà, on va s'arrêter ici. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayran. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.